Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h02 sur RMC, en mode Ligue des Champions. Allez, on est rentré dans ce 16e de finale de Ligue des Champions, AS Monaco, Paris Saint-Germain au stade Louis II, tout à l'heure à 21h. On est avec Jean-Pierre Papin, avec Jean-Michel Larquet et avec Benoît Boutron. On a passé une excellente première heure. On remercie encore Jérémy Ménez de nous avoir donné déjà son analyse sur le match de ce soir. On s'est régalé et puis on va encore se régaler jusqu'à 20h. Restez bien avec nous. C'est là que ça se passe. C'est dans Rotten sans flamme, les avant-matchs de Ligue des Champions.
On est excité. C'est la Ligue des Champions et un match est déjà en cours. 16e de finale. Allez, un partout entre Galatasaray et la Juve. C'est allé très vite dans ce match. Ouverture du score des Turcs à la 15e. Égalisation à l'instant de Kop Miners pour la Juve. Donc un partout après seulement 15 minutes entre les deux équipes. À 19h45, Rotten, tous contre Rotten, le quiz de Rotten sans flamme avec un magnifique cadeau, votre enceinte Bluetooth portable de la marque française Muse. 32-16 touche 4.
Gagné hier.
Ou quiz par SMS au 7-32-16.
Je vais vous le rappeler quand même.
Sur une balle de match. Enfin gagné parce que la semaine dernière, c'était pas brillant.
On parlera du Real Madrid à 19h30 dans la VAR. Est-ce que c'est un petit Real Madrid cette saison? Parce que dans le jeu, c'est pas terrible. Mais le Real est toujours là en Ligue des Champions et est en tête de la Liga. Donc on sera avec Edgar Grollo, notre correspondant à Madrid. Ce soir, c'est Benfica Real. Mais tout de suite, Jérôme, oublions le passé. Les choses sérieuses commencent pour Luis Enrique.
Et c'en est terminé. Les Monégas retrouvent la victoire 1-0 face au Paris Saint-Germain.
Autour du PSG, il y a toujours beaucoup de bruit. Il faut l'accepter.
Oh, l'égalisation Newcastle. L'égalisation encore une fois. Un partout entre Paris et Newcastle.
Paris hors du top 8, c'est fini.
On est habitué à surmonter des situations et je pense que c'est un moment particulier parce qu'on commence la vraie Champions League.
Je pense que le niveau, c'est pas une question de niveau.
Et le coup de sifflet final de cette rencontre, et les Parisiens ont pris 3 buts.
T'as prévu de prendre les 3 points et puis patatrac.
On doit surtout jouer pour le Paris Saint-Germain. La saison dernière, on a mis le club, le pognon, le club du Paris Saint-Germain devant avant de penser à soi-même. Et je pense qu'on doit retrouver ça.
On va se régaler encore. La soirée, c'est sur RMC que ça se passe.
Mais j'avais mangé avec Didier Deschamps, quoi.
Mais Jean-Pierre aussi a 2-3 punchlines. Enfin,
mais on a mangé avec Didier, avec Jean-Pierre, et voilà. Écoute, on est tombé dans la marmite.
Ce que je préfère,
c'est qui a payé.
C'est la question.
Bah, c'est pas Didier.
Ah, c'est pas Didier. Alors. La question papa dans le tous contre Rotten, c'est ma préférée. Jérôme Pancrave.
Non mais où c'est magnifique, c'est il est dans l'excitation. Il a la réponse.
C'était fou.
Je peux répondre. Ouais, Jérôme Pancrave.
Bah, j'espère qu'il y en aura une tout à l'heure. Allons-y donc sur ce match de ce soir, le début de la phase à élimination directe en Ligue des Champions. Les choses sérieuses commencent pour le PSG tenant du titre. C'est le discours des dirigeants depuis le début de saison, la deuxième partie de saison qui compte. Paris aborde cette phase décisive avec quelques doutes. Deuxième place en Ligue. Pas de top 8 en Ligue des Champions, élimination en Coupe de France et défaite à Rennes qui a provoqué des crispations le week-end dernier. Arthur Perrault est en principauté pour RMC Sport. Salut Arthur.
Salut messieurs, bonsoir à toutes et à tous.
Salut. Bienvenue Arthur.
Parle-nous de l'état d'esprit.
Parle pas trop fort, pour réveiller le voisinage.
Il commence. Ah, tu connais bien la maison.
Ah ouais, là, ça sonne creux. Ah bah, alors, je t'annonce, le match à 21h, là, il y aura personne avant 20h30.
Je peux te dire la vérité, juste en introduction, j'étais très inquiet en fin d'après-midi parce que il faisait très beau sur le port et il n'y avait personne. C'était très, très calme.
Ah oui, c'est Monaco.
Non, mais Monaco, cette période-là, c'est mieux.
C'est évident.
Arthur, vas-y, donc l'état d'esprit des Parisiens, comment ils abordent ce match?
D'abord de façon différente à comparer aux dernières rencontres, puisqu'il y a 2 semaines, Luis Enrique avait procédé à un début de réathlétisation, préparation plus calme cette fois. Le coach parisien a insisté sur les fondamentaux, les bases solides, beaucoup de confiance aujourd'hui dans le groupe parisien. Les propos d'Ousmane Dembélé qu'on vient d'entendre à nouveau dans la production n'ont pas eu plus d'impact que cela dans le vestiaire. Le groupe parisien reste donc soudé au moment d'aborder la partie la plus importante de la saison. C'est ce qu'a tenu à rappeler Luis Enrique hier en conférence de presse ici même.
On est habitué à surmonter des situations et je pense que c'est un moment particulier parce qu'on commence la vraie Champions League quand tu dois jouer contre les mêmes adversaires à domicile et à l'extérieur et on est motivé.
avec toujours quelques contraintes quand même pour cette équipe parisienne. Des pépins physiques qui traînent. Mayulu et Ruiz sont absents de ce déplacement à Monaco. Dembélé, victime d'une petite gêne musculaire au niveau du mollet, devrait être titulaire ce soir. Mais Luis Enrique pourrait aussi se montrer prudent avec l'état de forme de son vice-capitaine avant le match retour. Certains joueurs doivent aussi montrer plus ce soir, comme Désiré Doué, décevant à Rennes, qui pourrait lui céder sa place à Bradley Barcola dès le coup d'envoi. C'est en tout cas la tendance depuis ce matin, messieurs.
Merci Arthur. Rotten se chauffe. Est-ce que le plus dur commence pour Luis Enrique, 32-16, pour participer au débat? Jérôme, ça y est, on y est. Mais la deuxième partie de saison, les matchs à élimination directe, la Ligue des Champions, et ben voilà, on y est.
De toute façon, la vérité, c'est que la pression a été énorme sur le champion d'Europe. Et que ben si, elle est énorme, parce que je vais te dire, ils ont que des coups à prendre sur cette double confrontation.
Ah, c'est vrai.
Ben oui, s'ils se qualifient, c'est logique, et tout le monde dira OK. La preuve, c'est que l'atmosphère, on le voit, hein. L'année dernière, il y avait l'effet Brest, petit poussé, surprenant. Ils avaient fini champion d'Autriche, donc les Brestois en battant Sturmgrass mais à l'arrivée, Monaco aujourd'hui, quand tu vois que Monaco est 8e ou 9e du championnat, ils sont complètement largués, même s'ils ont fait quelques coups en Coupe d'Europe, en effet, pour arriver en accrochant des équipes au Stade Louis II, pas à l'extérieur parce qu'ils en ont pris une bonne à Madrid, ouais. mais quand tu fais nul contre City et tout ça, bon, à part ça, tu te dis, bon, bah, Monaco, franchement, le contexte, OK, on va s'en sortir correctement, on a pris une claque ce week-end à Rennes, donc là, ils vont réagir. En fait, c'est comme ça, donc il n'y a que des coups à prendre pour le Paris Saint-Germain et pour Luis Enrique.
Donc il y a de la pression ce soir sur Paris.
Bah, j'espère qu'ils ont la pression. J'espère que, mais de toute façon, je te dis j'espère, j'en suis persuadé.
Aujourd'hui, c'est confiance extrême d'après Arthur.
Aujourd'hui, non, mais tu peux être confiant, mais aussi avoir la pression. Ouais. Dire c'est une pression positive, et j'espère qu'ils l'auront, parce que s'ils l'ont pas,
c'est ça. Hein.
Je pense, et Arthur, et s'ils l'ont pas la pression ce soir, positive, hein, je te parle, bah attention. Parce que t'as perdu à Rennes, Monaco a un bon niveau, ils sont supérieurs à Rennes, t'en as pris 3 à Rennes, et ben écoute, tu peux aussi en prendre quelques-uns ce soir si t'es pas concentré. Non, mais la réalité, elle est là. Et il y a des joueurs qui doivent être bien meilleurs, et ils le savent, et individuellement et collectivement. Après, en effet, moi je pars du principe que quand tu fais le match qu'ils ont fait contre l'Olympique de Marseille, avec la pression qu'il y avait sur ce match-là, où il fallait répondre à pas mal de provocations de la part des Marseillais, on est au niveau, on les a battus en championnat, on les a accrochés, on méritait le trophée des champions. Les joueurs, ils en avaient un peu marre, je pense, et le staff, d'entendre ça. Ils leur ont mis une bonne claque, comme ça, on ne les entendra plus. Bah, je pense que Monaco, même s'ils ont moins parlé, la défaite en championnat, a laissé quelques traces quand même. Je sais qu'ils ont eu du mal à la digérer, celle-là. Je pense que Paris va répondre présent ce soir.
Et sur Luis Enrique plus précisément.
Non, mais sur Luis Enrique. Luis Enrique, il fait du super boulot. Moi, j'ai entièrement confiance à ce coach-là. Il y a des choses qui vont pas. Je pense en effet que dans la relation entre les joueurs, il y a eu des petits signaux là qui ont été annoncés par Dembélé et d'autres. Il y a un peu de frustration de la part de certains où ils retrouvent peut-être pas le jeu collectif qu'ils aimeraient déjà sur les entraînements. Mais Luis Enrique, il a la main sur son groupe, hein, je vous rassure. Ne vous inquiétez pas. S'il sent qu'il y a un truc qui va pas, les mecs, ils vont faire un petit tour sur le banc, ils vont revenir. Hein. Avec un autre état d'esprit, tu verras.
Le doute de la compo, Arthur, c'est Dembélé. Hein, ça, tout dépend de lui, hein, devant.
Oui, alors, pour vous donner vraiment les dernières informations qu'on a eues jusqu'à hier soir très tard avec Fabrice Hawkins, hier ici même, lors de la séance de veille de match, il a de nouveau ressenti une petite gêne, la même qu'il a ressentie à la fin du match contre Rennes, au niveau du mollet et plus globalement de la jambe. Et hier soir, en rentrant à l'hôtel, ça semblait aller. En tout cas, lui a dit qu'il se sentait à 100%. Et du côté du staff, on se montrait plutôt rassurant. Sauf que c'est pas le joueur qui décide. On l'a déjà rappelé assez souvent. C'est Luis Enrique qui décide. Et on sait que dans ce type de situation, il peut souvent se montrer frileux et très prudent au vu de l'état de forme un peu instable de ce type de joueur.
Jean-Michel, est-ce que le plus dur commence pour Luis Enrique?
Bah, c'est je vais être provoque un petit peu parce que vous avez tout dit sur la différence de niveau entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco, même si on peut quand même s'interroger sur des joueurs qui à un an d'intervalle
n'ont pas tout à fait les mêmes performances.
Ça, c'est
clair. Pense, par exemple, je pense que des garçons comme Marquinhos, comme Hakimi, voire comme Vitinha même, hein, ou même le petit Neves, et ça fait beaucoup de
Marquinhos,
monde.
Marquinhos, il a rien à foutre dans ce lot-là, quand même. Marquinhos, il n'a pas été catastrophique, Jean-Michel.
Non, pas catastrophique. Je ne dis pas. Je pense qu'il est un petit peu moins bien qu'il ne l'était l'an passé à la même époque.
Je ne trouve pas, moi. Mais bon. Après, sur les autres, je suis d'accord. Mais bon.
Je pense que Dembélé est moins bon, moins bien.
Cette...
Voilà. Donc ça commence. Les moins commencent à m'inquiéter. Il me semble qu'il y a plus de moins, si j'ose m'exprimer ainsi, que
c'est
plus
vrai.
De plus.
Il y a
ça. Et puis je vais être un petit peu provoque. Moi, j'aime bien quand le Paris Saint-Germain joue comme les joueurs ont envie de jouer. Et non pas comme les joueurs jouent selon l'envie de l'entraîneur. Je suis provoque.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Moi, je n'aime pas le Paris Saint-Germain qui ronronne et le Paris Saint-Germain qui est dans la conservation du ballon à l'excès. Voilà. Et qui.
Mais t'as senti ça, toi?
Je l'ai senti par moment, alors que je pensais qu'il y avait eu un changement de logiciel l'an passé après Manchester City, ou pendant, plus exactement, pendant Manchester City, où les joueurs avaient pris les choses en main. Et j'aime bien le Paris Saint-Germain, quand les attaquants jouent sur leur qualité, qui est la profondeur, la vitesse, et je n'aime pas quand il joue en ronronnant et en général.
Mais ça peut s'expliquer, Jean-Michel. Regarde, il y a juste quand Barcola joue pas, parce que Barcola, lui, c'est un joueur de profondeur et à chaque fois il anime. On peut dire qu'il a du déchet. Mais à côté de ça, quand Barcola joue pas, quand t'as Hakimi au niveau qu'il a depuis qu'il est revenu de blessure et de la Coupe d'Afrique, qui te donnait de la profondeur. Comme Nuno Mendes peut t'en donner aussi, écoute, t'as plus trop le choix derrière. Et c'est sûr qu'on a tendance à avoir une équipe ronronnée.
C'est pour ça que je te dis que moi j'aime bien l'équipe qui a joué la façon de jouer, qui était chaque fois qu'ils avaient le ballon, ils partaient vite vers le. Ils portaient rapidement le danger, comme ils ont une qualité de passe qu'aucune autre équipe n'a, peut-être en Europe. Eh bien, ils arrivaient immédiatement à créer la supériorité numérique et à se procurer un nombre incalculable d'occasions. Chose qu'il n'arrive pas toujours à faire, sauf contre la défense de l'Olympique de Marseille.
C'est vrai.
Pardon, Jean-Pierre.
Pardon, Jean-Pierre.
Ah, c'est plus facile quand il y a Bayern.
Pas de soucis.
L'avantage qu'a le PSG aujourd'hui.
C'est là que je vous assure, je ne l'avais pas préparé. On me l'a soufflé dans le. Nicolas, c'est pas gentil.
Nicolas,
on me l'a soufflé dans l'oreille. Bon, voilà. Il m'a parlé quand même de Balerdi aussi. Bon, voilà. C'est simplement vous dire que je pense que pour Luis Enrique, il faut absolument qu'il fasse confiance à ses joueurs qui ont beaucoup de talent et qui n'aiment pas. Oui, c'est bien. Tu touches 100 fois le ballon dans un match. C'est bien. Mais bon sang de bonsoir, c'est quand même plus excitant quand tu as le ballon et que sur une bonne passe qui fait 10 mètres en avant ou 15 mètres en avant, tu élimines toute une.
Ouais, mais ça, on l'a montré. Ça, Jean-Michel, ils l'ont montré. Et tous les détracteurs.
Ils l'ont montré l'an passé en deuxième.
Non, mais ils l'ont montré parce que. Et tous les détracteurs de Luis Enrique aujourd'hui, on les entend plus. Tous les détracteurs te disaient, oui, le Giron run. Et il leur dit, surtout pas d'attaquer.
C'est
pour ça. Mais je pense que c'est lié surtout aux performances individuelles des joueurs. Dire, quand tu prends un Kvaratskhelia. Tu vois, Kvaratskhelia, l'année dernière, franchement, quand il est arrivé au mois de janvier, il a gagné sa place du titulaire, il a été énorme dans le volume et tout ça, mais quand il prenait la balle, il se passait des choses. Cette année, il se passe beaucoup moins de choses.
C'est vrai.
En plus, il a été blessé. Tu prends Doué, l'année dernière, il prenait le ballon, il gardait, il perdait pas, il jouait, il allait vers l'avant. Là, cette année, il y a beaucoup de déchets. Dembélé, tu l'as dit, et tout le monde le constate, que pour l'instant, c'est largement en dessous de ce qu'il faisait sur les six derniers.
On retrouve un très bon Dembélé,
mais c'est moins, c'est inconstant.
Ouais.
Donc ça se traduit dans les performances de l'équipe. Et puis Barcola, il y a beaucoup de déchets. Et c'est un peu ça. Donc
Et la Juve vient de marquer un deuxième but.
Un but exceptionnel de la Juve qui prend l'avantage à Istanbul sur la pelouse du Galatasaray. 2-1 après 31 minutes pour les Italiens. Spalletti qui célèbre ce but. Donc 2-1. Jérôme, si tu veux le commenter, ce but.
C'est à une deux fantastique. Après,
La frappe du pied gauche.
Il met une frappe.
Magnifique. En dehors de doublé de Cop Miners, non ?
Ouais, c'est lui.
Frappe. Coup de pied,
stage marqué.
Voilà. Coup du pied, équilibré.
Point du pied tendu vers le sol. Et,
à la papa.
Et voilà.
C'est ça.
Une
carme.
Une papillade du pied gauche.
Exactement.
Ah, t'étais nul.
Mais pas du gauche,
du pied gauche. Jean-Pierre, t'étais du pied gauche.
Ça va pas, oh. Voilà un ballon d'or, calmez-vous.
Pied gauche, t'as marqué des. Ballon d'or, t'as marqué beaucoup de buts du pied gauche, ballon d'or ?
Pas quand même.
Je vais te dire franchement.
4
c'est donc une misère, quoi.
C'est dingue, quoi. Je vais regarder les stats.
C'est dingue, sur les 850 buts que t'as mis, t'en as mis que 4.
Sur les 346, 4.
Attends, non mais c'est incroyable. 346, que 4. Non mais c'est incroyable.
Et de la tête ? Et de la tête, Jean-Pierre ?
La tête, pas mal quand même, non ?
Ouais, 4. Pas mal, ouais. Ouais, je sais pas combien, mais. Je vais refaire les stats.
Je vais regarder.
Vous m'intriguez.
Jean-Pierre, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que le plus dur commence pour Luis Enrique alors ?
Ouais, je pense que le plus dur commence parce que je pense que ces matchs à élimination directe sont beaucoup plus difficiles à jouer, même si l'année dernière ils ont été royales par rapport à ces compétitions. En plus, j'aime pas trop moi ces confrontations franco-françaises parce que vu ce qui vient de se passer à Rennes, Rennes a montré le chemin pour pouvoir gêner ce PSG. Et je pense que le match, pour moi, il est beaucoup plus important pour le PSG contre Monaco, parce que tout le monde s'attend à ce que Monaco se fasse éliminer.
Eh oui.
Mais avec ce match de Rennes d'il y a quelques jours, je pense qu'on a remis quelque part
qu'il y a du doute.
La possibilité d'eux.
Ouais, c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec toi, Jean-Pierre, là-dessus.
Tiens, accueillons Charlie, qui est très très confiant, vous allez le voir, supporter parisien.
Salut Charlie.
Salut l'équipe.
Salut Charlie.
Bienvenue Charlie. Bon alors, toi, t'es ultra confiant.
Bah écoute, Ouais, je vais reprendre un petit peu tout ce que vous avez dit, mais tu vois, moi j'étais au match à Rennes justement, là, c'était à une heure de chez moi.
Ouais.
Je suis allé voir le match et clairement l'équipe avait déjà la tête à Monaco. Il n'y avait pas d'engagement, pas de duel, pas d'impact. Les courses, ils arrêtaient leurs courses. J'ai bien compris ce que Dembélé a voulu dire par rapport au match, c'est qu'il n'y avait pas la fluidité qu'on leur connaît d'habitude, qu'on a pu retrouver au Parc contre Marseille. D'ailleurs, il y a eu le match aller Marseille, on perd là-bas, de Marquinhos contre son camp. On les reçoit chez nous, on leur en met 5. Donc, éventuellement, contre Monaco, à Monaco, ça peut être un peu plus difficile. Pourquoi pas ? Ils vont être chez eux, ils vont vouloir défendre leur beefsteak. Mais les gars, sur une confrontation aller-retour, n'attendez pas à ce qu'on fasse un mauvais match au match retour. Surtout avec Luis Enrique à la baguette, on sait de quoi il est capable derrière.
Ouais, mais encore une fois, je pense qu'on a, il y a beaucoup de choses qui se disent sur Luis Enrique et on a été sur le terrain aussi. On sait que l'entraîneur est important, ça reste le chef d'orchestre. Mais après, sur ces matchs de Ligue des Champions, la vérité, ça t'appartient quand t'es joueur.
Ce que tu mets
en place, comme tu l'as dit, à Rennes, je sais pas si il pensait, je pense pas. Maintenant,
tu peux pas choisir tes matchs.
Voilà, tu peux pas choisir. Tu peux pas te dire à Rennes, il nous a mis sur le terrain, mais on n'a pas envie de jouer parce que de toute façon, on va se préserver parce qu'il y a un match mardi soir à Monaco. Ça, c'est pas possible. Après, en effet, le match à 19h a cassé la tête à pas mal de joueurs. Je pense réellement que ça a été ça. Alors, je dis pas que c'est bien. Parce que je pense que comme ils l'ont préparé, la concentration, la motivation, elle s'est vue dans l'attitude surtout des remplaçants. Des remplaçants, nous on commentait le match avec Benoît, ouais. Là, et toi t'as dû le voir sur place.
Il était en vacances.
Mais en fait, à 1-0 pour Rennes, il y a des choses, les remplaçants ils rigolaient.
Ça
m'a marqué et je pense que ça a pas plu aussi à certains dirigeants du PSG.
Rassure-moi, on est tous d'accord pour dire que le PSG a été extraordinaire la saison dernière avec les 6 mois fantastiques et tous les titres remportés, etc. Mais si jamais Paris fait une mauvaise prestation ce soir ou enchaîne les mauvais matchs avec les quelques accros qu'il y a depuis le début de saison, on peut quand même critiquer Luis Enrique. Là, tu parles des joueurs, mais il a peut-être une responsabilité aussi. Si ce soir ils se font accrocher, peut-être qu'il sera critiquable quand même, Luis Enrique.
T'as raison.
Normalement, le totem d'immunité.
Mais tu as raison. Mais est-ce que j'ai dit qu'on n'avait pas le droit de critiquer. Je dis juste que, rappelle-toi ce qui se disait l'année dernière.
C'est pas parce que l'année dernière, il y a des critiques qu'elles ont été.
Non, c'est pas des critiques. C'est des gens qui te racontait le football et qui te disait qu'avec Luis Enrique, en fait, on peut pas gagner et que Luis Enrique, il est ingérable.
Oui, mais à l'inverse, c'est pas pour ça qu'aujourd'hui il est impossible de la critiquer.
Pour le meilleur entraîneur du monde, alors que le mec, il avait déjà gagné avec des champions. Bon, bah écoute, tous ces gens-là, bah ils ont ravalé un peu leur salive et maintenant on les entend moins. Et
mais
tant
si,
mieux.
Mais s'il est après, critiquable là, on pourra le critiquer aussi.
Il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de totem d'immunité pour Luis Enrique.
Mais reste quand même que dans la préparation de ce match, il y a des petits signes qui n'existaient pas l'an passé, des petits signes d'inquiétude. Moi, notre supporter Charlie. Paris Saint-Germain, c'est Charlie, s'il est toujours là.
Il est là, bien sûr.
Charlie, tu avais un match qu'il fallait gagner pour être dans les huit premiers contre Newcastle,
qui n'est pas
quand même pas, qui n'est pas quand même là une équipe énorme du championnat anglais, et tu n'as pas réussi.
Plus de regrets sur celui-là que sur celui de Rennes, honnêtement. Parce que c'est très bien à chaque fois, à chaque échéance,
du coup,
avant la Ligue des Champions, tu vois bien, et ça joue tout le temps un petit peu. Il y a la peur de la blessure, on a eu beaucoup de joueurs blessés, ils se disent, c'est bon, j'ai pas eu de joueurs blessés, on a la grosse échéance qui arrive, la Ligue des Champions. Honnêtement, et même à parler avec les supporters rennais, ils disaient, il leur manque quelque chose à Paris. Ils mettent pas l'intensité qu'ils mettent d'habitude.
Ouais, mais ils l'ont.
On va parler d'envie, parce que c'est ce que vous avez dit, tu peux pas sélectionner tes matchs, mais. Il leur manquait un truc, et honnêtement.
Mais il leur manque un truc très souvent cette année, Charlie. C'est surtout ça. C'est ce qu'on disait avec Jean-Pierre et avec Jean-Michel. C'est que cette année, très souvent, il y a eu des matchs où on avait l'impression que ça y est, il fallait appuyer sur le bouton et répondre présent. Et moi, je reconnais que le match de Newcastle, comme tout le monde, il m'a extrêmement déçu, celui-là. Parce que ils avaient tout pour se qualifier directement.
Et le match, ils vont gagner 4-0 et au final, pas du tout.
Et ils ont. Que contre le Sporting, parce que
c'est
Sporting,
vrai.
Tu refais 10 fois le match, tu gagnes 10 fois.
Ça c'est vrai.
Donc, mais tu ne le gagnes pas.
Mais tu le gagnes pas.
L'année dernière, tu l'aurais gagné.
C'est ça les petits signes dont je veux parler, Charlie.
Mais après les petits signes, tu sais, Jean-Michel et Jean-Pierre, vous avez tous les deux été entraîneurs de haut niveau, donc je vais pouvoir vous poser la question. Bah si, toi, t'as entraîné le PSG, arrête.
Bah oui.
Écoute, bah oui, moi ça m'a marqué, mon enfance.
T'as décidé d'être gentil aujourd'hui.
Bah oui, mais
c'est ta journée de bonté.
Mais pour les critiques, comme disait Benoît, on peut critiquer l'entraîneur si les résultats sont pas là. Bien sûr qu'il est critiquable. Mais moi, j'ai plus envie de te dire que la stratégie du PSG de ne pas recruter, si jamais, attention, ça se passe mal ce soir, c'est toujours pareil, si ça se passe mal et qu'ils n'arrivent pas à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, c'est un gros coup d'arrêt, donc une grosse claque reçue. Il faudra faire le premier bilan de Ligue des Champions et tu te diras, Luis Enrique, il n'a pas trouvé, si tu veux, le mojo comme il a pu faire l'année dernière avec son groupe.
Et la façon de relancer cette
équipe. Mais peut-être qu'il fallait rafraîchir ce groupe.
Merci à Charlie qui est venu au 32-16 et ça rend ce match passionnant pour ce soir. Il sera à suivre dans l'After Live à partir de 20h. Tout comme Benfica Real Madrid, dont on va parler dans un instant. Est-ce que c'est un petit Real cette saison? Parce que dans le jeu, c'est pas fantastique, mais en revanche, le Real est leader de Liga et toujours là présent en Ligue des Champions. Et puis le match en cours.
Regardez, peut-être que gardien de Benfica va nous remettre une tête.
Troubine, peut-être. Ouais. Galatasaray face à la Juve. La Juve qui mène pour l'instant 2-1 à 5 minutes de la pause.
J'ai poster de Troubine sur au-dessus de ma cheminée.
Pardon Jean-Pierre, une nouvelle fois. Allez, dans un instant, on parle du Real dans la VAR de Roten sans flamme. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
19h30 sur RMC, on est là, on est bien dans Roten sans flamme. On finit l'émission, la dernière demi-heure de Roten sans flamme du soir, en mode Ligue des Champions. Bien sûr, on continue de parler de ce AS Monaco Paris Saint-Germain ce soir à 21h en intégralité, comme tous les grands matchs sur RMC. On est avec Jean-Michel Larquet, on est avec Jean-Pierre Papin et avec Benoît Boutron dans 15 minutes. Ça va être la boucherie parce que là cette semaine en route pour un grand chelem. J'ai gagné hier. On va continuer.
Mais là dans ce grand chelem comme ça, t'es comme ça toi.
Oh ouais, bah si vous me la faites pas à l'envers, vous trichez pas. Normalement, c'est ce qui va se passer.
C'est noté. Tous contre Roten, magnifique cadeau. Enceinte Bluetooth portable de la marque française Muse pour vous inscrire 32-16, touche 4 ou quiz par SMS au 7-32-16. Le match en cours en Ligue des Champions. La Juventus mène toujours 2-1 sur la pelouse du Galatasaray. Et tout de suite, on parle de l'autre choc de la soirée.
Jérôme, je t'invite à écouter ça.
C'est parti, ça passe devant tout le monde. La tête de tomber, le but c'est une situation incroyable, c'est le gardien de Benfica qui marque.
Non.
L'avare de Roten sans flamme.
Les retrouvailles ce soir entre le Benfica et le Real Madrid, trois semaines après ce match complètement fou, ce but de Trubin, gardien de but des Portugais dans les ultimes secondes pour éliminer l'OM et permettre au Benfica d'être barragiste. Le Real qui, depuis ce temps, a remporté tous ses matchs et s'est même emparé de la tête de la Liga. Edgar Groslo, notre correspondant en Espagne, est là. Salut Edgar.
Ah, Edouard est là. Edouard.
Salut Edouard.
Salut
Benoît.
Salut Edgar. Salut tout le monde. Salut Edouard.
Ouais. Vous arrêtez avec cette blague. Vous dites correctement son prénom et son nom, s'il vous plaît.
Ah oui. Non, le papa, il va
être. Vous allez bien ?
Ouais, et toi ?
Son papa Pierre nous écoute tous les soirs.
Ça va super.
Donc on l'embrasse d'ailleurs.
Bon, alors qu'est-ce qui se passe à Madrid ?
Comment le juge sur Real Madrid alors, Edgar ? Toi qui les suis semaine après semaine, parce que là, ils sont leaders de championnat d'Espagne, mais dans le jeu, on les a souvent critiqués. Ils ont même dû se passer de Kylian Mbappé sur le dernier match. Est-ce que ça progresse dans le jeu à Madrid ?
Ça progresse un petit peu. Maintenant, si on regarde la globalité de la saison, on va pas se mentir, c'est un petit Real dans le jeu. C'est souvent très poussif, c'est souvent à la limite. C'est un Real qui a très régulièrement compté uniquement sur les buts de Kylian Mbappé, 38 fois d'ailleurs, 38 buts de Kylian Mbappé, et sur les arrêts de Thibaut Courtois pour s'en sortir. C'est un Real qui, mine de rien, a déjà 7 défaites cette saison, et surtout dans des chocs qui comptent beaucoup, contre l'Atlético, Liverpool, Manchester City, Barcelone, Benfica. Ils sont fait éliminer de la Coupe du Roi par une équipe de deuxième division et ils vont donc devoir passer par les barrages pour continuer en Ligue des Champions. Maintenant, oui, c'est poussif, mais ce Real-là est aussi premier du championnat, tu l'as dit, avec deux points d'avance sur le Barça. C'est aussi la meilleure défense d'Espagne et si on dézoome un peu, le Real a 60 points en Liga après 24 journées. Ça va peut-être vous surprendre, mais c'est le troisième meilleur total dans l'histoire du Real Madrid. Donc, malgré les crises, les polémiques, le jeu qui est décevant, sur le plan uniquement comptable, c'est un championnat excellent pour eux cette saison.
C'est un club particulier, capable de tout, notamment en Ligue des Champions. Est-ce que pour vous, c'est un petit Real cette saison ou il faut toujours s'en méfier, notamment en Coupe d'Europe, Jérôme ?
Il faut s'en méfier du Real Madrid. La dernière fois qu'ils ont gagné la Ligue des Champions, et pas que la dernière fois, personne les voyait la gagner au mois de février. Et puis à l'arrivée, ils étaient là parce que c'est le plus grand club du monde et qu'ils ont cet ADN là. Et c'est en eux. Donc, oui, ils sont très très durs à jouer en Ligue des Champions, quel que soit l'adversaire. Après, il y a juste les qualités de l'équipe. Edgar le disait. Elle est loin d'être impressionnante collectivement, contrairement à avant.
On sent que
à part à part l'atout Jean-Michel, Kylian Mbappé, qui il lui en faut pas beaucoup pour marquer des buts, on est d'accord.
31 matchs, 38 buts.
Là, la chance qu'ils ont, je pense. Alors, je sais pas, Edgar, tu vas me confirmer. Moi, j'ai regardé les derniers matchs du Real et même quand Kylian ne jouait pas, j'ai l'impression quand même que Vinicius il revient à un bon niveau.
Ouais.
Et que si t'as un bon Vinicius, un bon Kylian Mbappé, bah ça peut te corriger quand même beaucoup de défaillances.
Oui, et si t'as par exemple Trent Alexander-Arnold qui la revient et c'est sa première titularisation depuis début décembre, on a vu dans le jeu et au niveau de la qualité technique, parce qu'à chaque fois on parlait des manques en termes de qualité technique dans cette équipe, la différence et la valeur ajoutée qu'il apporte est énorme. Donc ça, c'est typiquement un joueur qui peut aider. Mais encore une fois, c'est pas parce que tu arrives en championnat que tu vas réussir par exemple défensivement à tenir avec Trent, parce qu'on sait que c'est pas son point fort dans les grands matchs de Ligue des Champions. Donc c'est là aussi où on va voir, notamment ce soir, si ça tient. Parce qu'il
Et tu peux citer la charnière centrale, qui est souvent en grande difficulté, notamment le week-end dernier. Huijsen, c'est... Vas-y Jean-Michel.
C'est là tout le paradoxe, parce que moi je trouve quand même que cette équipe-là, deux matchs sur trois, ils prennent des buts. De temps en temps, ils font un clean sheet, mais c'est assez rare. Hein. Je crois que l'un des derniers doit être un match à Valence, peut-être, ou au...
2-0, ils avaient gagné.
Bon, il me semble, mais régulièrement, et même contre la Real Sociedad, à un moment donné, ils se sont mis en danger, alors qu'ils ont gagné finalement le match facile 4-1 sans Mbappé. Et à un moment donné, ils étaient 1-1, je crois que c'était un pénalty au Yersabal qui
m'a. Ah oui, exactement,
avec
l'erreur de Huijsen. Énorme.
Et cette équipe-là, quand même si c'est. Alors là, tu m'as scotché quand tu as dit que c'était la meilleure défense du championnat espagnol de la Liga.
C'est dingue.
En tout cas, objectivement, sur ce que l'on voit, on a du mal à le croire. Bon, les chiffres sont là, on va pas les contester. Mais effectivement, il y a une il y a une façon de subir les matchs et chaque fois qu'ils se livrent, ils font peur, il y a des boulevards et c'est tout un pan de l'équipe qu'ils auront à reconstruire très très rapidement. Il faut arrêter peut-être les stars de l'attaque et penser un peu au milieu et surtout penser beaucoup à la défense.
Jean-Pierre,
pour la reconstruction.
Est-ce que c'est un petit Real cette saison ou est-ce que tu t'en méfies?
Alors moi j'ai l'impression de voir la même histoire chaque année.
Ouais, c'est vrai.
Un éternel recommencement. C'est que pendant les 6 premiers mois, à chaque fois c'est un petit Real, c'est une équipe poussive, mais en quoi qu'il arrive, ils sont toujours ou premier ou second, ce qui est encore le cas cette année. Mais chaque fois qu'arrivent par contre les matchs de Ligue des Champions aller-retour, c'est pas la même équipe et c'est là qu'elle monte en puissance. Comme si en fait ces 6 premiers mois, c'était un peu à l'image du PSG, un peu poussif. Et dès que tu rentres dans les matchs où ça va être les plus importants, c'est plus la même équipe. Et le fait qu'en plus, t'es un Kylian qui marque but sur but, t'es un Vinicius qui revienne, t'as un autre attaquant qui peut être Rodrigo, qui peut être Arda Güler, qui peut être peu importe Gonzalo, qui tu veux, mais ils sont capables à tout moment de renverser n'importe qui.
Est-ce qu'on craint à Madrid l'effet Mourinho? Est-ce qu'on s'en méfie, Edgar, ou on n'a pas vraiment peur du Benfica là?
Oui.
Ouais. Ah, on a peur.
Non, on se méfie parce que c'est Mourinho et parce qu'on a vu le match aller. Parce que au-delà de ça, je me souviens d'une déclaration de Kylian Mbappé après le match à Benfica où il avait dit mais si on se prend 5-0 en première période, c'est mérité parce que le Real avait eu énormément de mal à Lisbonne. Donc, évidemment, ce match-là fait peur à tout le monde et rappelle à tout le monde que ok, c'est pas parce que t'es favori que tu vas forcément t'imposer à Lisbonne et surtout quand t'as Mourinho qui connaît très très bien ce Real Madrid.
Edgar, on connaît la compo du Real avec une bonne nouvelle d'ailleurs pour les Madrilènes. Hein.
Oui, avec Kylian Mbappé qui est de retour. Alors ils ont sorti la même compo que face à la Real Sociedad. La seule différence donc c'est le retour de Kylian Mbappé et donc la sortie de Gonzalo Garcia. Je vous la donne rapidement. Mmh. Courtois, la défense, Trent, Rudiger, Huysen, Carreras, le milieu de terrain, Güler, Valverde, Tchouaméni, Camavinga et les deux attaquants, Vinicius Junior et Kylian Mbappé.
Et là aussi on a le temps d'en dire un mot, Edgar. On parle souvent de Kylian Mbappé. Il y a deux autres joueurs français qui jouent régulièrement, Aurélien Tchouaméni, mais Camavinga qui est mine de rien en train de se faire une place dans cet effectif, dans cette équipe. Il enchaîne les titularisations. Il est revenu dans la liste de Roten sélectionneur. Oui, c'est tous les lundis dans Roten sans flamme.
Évidemment.
Camavinga, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce qu'il commence à s'imposer alors petit à petit dans cette équipe?
Oui, mais c'est toujours le même problème avec lui, c'est-à-dire que depuis qu'il est au Real Madrid, en fait, quand il arrive à enchaîner des matchs, il est très souvent titulaire parce qu'il a montré qu'il a les qualités pour être titulaire. La question maintenant, c'est est-ce qu'il va réussir à enchaîner physiquement, est-ce qu'il va tenir sur le long terme. Mais évidemment, Camavinga, il a des qualités que les autres joueurs n'ont pas, des qualités de vivacité, sa capacité aussi à se retourner dans les petits espaces et à se sortir de situations compliquées. Défensivement aussi, il apporte énormément d'équilibre à cette équipe et que ce soit Xabi Alonso ou Arbeloa, ils n'hésitent pas aussi parfois à le faire. Jouer plus sur un côté, il peut jouer latéral aussi, donc il a vraiment une carte à jouer maintenant. Et comme lui il a dit en conférence de presse hier aussi, maintenant son défi c'est de réussir à être régulier et de s'imposer durablement parce que c'est ça qu'on attend de lui. Et je pense que ce soit en équipe de France d'ailleurs ou au Real Madrid, tout le monde voit ses qualités, mais tout le monde reste un petit peu sur sa faim depuis quelques années avec lui parce que on voit qu'il peut faire plus que ce qu'il fait aujourd'hui.
Qu'en pense le sélectionneur d'RMC?
Non, mais il a des qualités. Camavinga, il y a pas de souci. Moi, je le préfère au milieu de terrain que quand il joue arrière gauche, ça c'est sûr. Mais après, pour un milieu de terrain, il nous a tellement enthousiasmé au tout début que on s'attendait encore à une grosse marge de progression. Et je trouve qu'il a stagné dans ce que un milieu de terrain aujourd'hui doit apporter. C'est-à-dire que qu'il soit bon à la récupération, dans le volume, dans la lecture du jeu, il n'y a pas de souci. Après, techniquement, essayer de casser les lignes avec de la passe ou avec de la percussion, je trouve que là, il doit passer un cap encore. Et moi, je reste très souvent sur ma faim. Et puis surtout, dans le dernier tiers du terrain, et là, il faut des fois jouer un peu plus avec ta technique, mettre des meilleurs ballons, être plus décisif de ce côté-là, ou même aller finir les actions. Et là, pour l'instant,
complètement raison, Jérôme, oui. C'est qu'on l'attend quand même de temps en temps dans la réalisation d'un, d'un but, ou dans le don d'une passe décisive.
Bah, oui.
Et c'est vrai que ça manque cruellement dans le bagage technique de Kamavinga. L'activité, elle est là, la récupération, elle est là, la conservation du ballon.
Elle est là aussi.
C'est présent, mais quand même un joueur évoluant au Real Madrid, au milieu de terrain, dans une équipe qui marque beaucoup de buts, de temps en temps, tu en marques un, ça ne fait pas de mal dans les stats, et de temps en temps, tu donnes un ou deux ballons décisifs.
C'est bien aussi,
tous les mois,
ouais.
C'est pas mal non plus.
Ouais, ouais.
Et ça, je pense que c'est un petit peu désertique du côté des stats de
Kamavinga.
Merci Edgar. Tu suivras Benfica Real sur RMC ce soir.
Merci Edgar.
Ah, on l'appelle Edgar, alors on va l'appeler Edgar.
Ah bah, c'est son prénom, donc c'est mieux de l'appeler Edgar.
Ah bon.
Ouais, c'est mieux. Ouais.
Et on embrasse son père qui nous écoute tous les jours.
On nous écoute.
Tu m'appelles comme tu veux, Jean-Michel.
Et Edgar, ce soir, avec ce qu'on a dit avec Jean-Michel sur Kamavinga, c'est un doublé de Kamavinga.
Ah voilà, on verra.
Au moins.
Et deux passes décisives.
Et on rappelle l'info essentielle, c'est que Mbappé sera bien de retour
avec
en tant que titulaire.
Un but de Tchouaméni.
Tiens, autre info, on aura les compos d'équipe de Monaco Paris Saint-Germain dans un instant, 16e de finale aller de Ligue des Champions.
Si tu voulais, il fallait me le demander.
Luis Enrique vient de déclarer à nos confrères de Canal+ que Dembélé jouera bien ce soir. On ne sait pas s'il démarrera, mais en tout cas, il devrait avoir du temps de jeu ce soir.
Il sera sur le banc.
Bah, on verra. En tout cas, réponse dans un instant avec ce quiz qui arrive tous contre Roten. À tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme.
19h48, en mode Ligue des Champions, c'est le quiz de Roten sans flamme, un quiz de Loïc Moreau. Aujourd'hui, on embrasse Luigi de là-haut. On est avec Jean-Michel Larquet, avec Jean-Pierre Papin. Alors, pour de bon, là, ils partent de loin pour gagner parce que là, je suis focus.
Ah, bah, Paris Saint-Germain-Monaco, oui, ça.
Ah, oui, c'est
oui. Alors, oui, si c'est le thème. Si
oui, c'est vrai, quand t'as marqué l'histoire des deux clubs, c'est.
Dans 10 minutes, l'After Live, alerte, composition d'équipe à Louis II avec Jean-Louis Tour, la voix du foot.
Et
Arthur Perron qui est là aussi, ou Maxime
Tillette.
Le patron. Salut tout le monde. Ouais, c'est Maxime Tillette qui est là, bien sûr.
Salut Maxime.
Ouais, avec le. On enchaîne du côté de Sébastien Pocognolet avec la défense à 4 comme face à Nantes et donc avec Denis Zakaria au milieu de terrain. Dans les buts, forcément. Philippe Keun titulaire, la défense de droite à gauche avec Vanderson, Jordan Tézé, Woutfès et Caio Henrique. Il y a juste un absent de dernière minute, on l'a pris ce matin, c'est Thilo Kehrer, l'ancien parisien qui est malade. Au milieu de terrain, donc Denis Zakaria avec Lamine Camara, une ligne de 3, l'autre incertain était Marnès Akliouche, il est bien présent, il est bien titulaire sur l'aile droite. Simon Adingra va enchaîner sa deuxième titularisation sur l'aile gauche, lui qui est arrivé exactement à hauteur d'un doublé ce week-end, arrivé cet hiver. En numéro 10, Alexander Golovin qui sera en soutien de Follard. Marine Balogun a noté également qu'Ansu Fati était incertain et n'est pas sur la feuille de match.
Et côté parisien, Dembélé titulaire, Désiré Doué sur le banc. Il y aura donc Safonov dans les buts, Pacho, Marquinhos, Hakimi et Nuno Mendes et son numéro 25, Vitinha, Joao Neves et Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain, Dembélé en pointe et sur les côtés, à voir comment ça va s'organiser, mais il y aura Kvaratskhelia d'un côté et Barcola de l'autre.
Et Jérôme Bretagne l'avait annoncé, l'avait prédit, bravo. Bravo Jérôme. Merci Jean-Louis, merci Max.
Je l'avais dit un peu tôt, c'était vendredi.
L'After Live dès 20h sur RMC. Merci les gars, à tout à l'heure.
Merci les gars,
RMC. Bon match. Tous contre Roten.
Loïc Moreau est là. Salut Loïc.
Salut Benoît. Salut, salut tout le monde. Salut Jérôme.
Salut Loïc. Au top.
Allez, disons bonsoir.
Très bon hier. Bah, continue.
À je vais Grégory, essayer d'être meilleur. Grégory et Damien qui vont s'affronter ce soir. Salut à vous deux.
Salut Greg. Salut Damien.
Salut.
Les gars, le cadeau du soir, c'est une enceinte Bluetooth portable de la marque française Muse. Grégory est supporter d'Arsenal. Est-ce qu'il veut jouer avec Jérôme ou avec le reste du monde, Grégory?
Avec Jérôme.
Allez, Greg avec Jérôme et Damien avec le reste du monde. C'est parti.
Allez, on va faire un petit thème Monaco-PSG, puisque c'est d'actualité.
Oui. Pas du tout avantagé, Jérôme.
Pourquoi? Non, mais attends, ils connaissent le foot aussi,
qu'on appelle le Rotenico, effectivement, entre nous. Allez, est-ce que tout le monde est prêt? On va commencer par une question flash.
Allez,
38 joueurs ont porté le maillot de Monaco et du PSG. Parmi ces 38 joueurs, je vais vous demander de me citer le Ballon d'Or.
Le Ballon d'Or?
Ah bah facile.
Le Ballon d'Or
qui a joué Georges Weah.
1-0 ou pas?
1-0.
Ok.
Je vais vous demander de me citer le champion du monde 98.
Djorkaeff.
Ça fait 2.
0.
Et je vais vous demander le plus grand consultant sportif
Jérôme Rotten
de l'histoire.
Alors, moi, j'avais mis Omar Da Fonseca.
Oh, tu te fous de ma gueule ou quoi?
Je préfère. Ah, t'attendais pas, Jérôme, celle-là.
Et je préfère perdre mon point, Jérôme Rotten. Ah, bon. Je préfère perdre mon point.
Quand même. Merci. Non, mais merci, merci, Jean-Michel.
Quand même. Et 2 et 3-0.
Omar, c'est un karting. Mais il est gentil, Omar. C'est un karting.
Tu as pas lui compté le point.
Non, mais Omar, c'était même un karting quand il était joueur. Et consultant pareil. Mais on l'aime bien, Omar.
On reste à 2-0. Ah ben ça, oui, pour ça, Jérôme et Grégory.
Manquerait plus qu'ils mordent. Vas-y.
Allez, et on fait dans la continuité question du patron.
Salut, c'est Jérôme Rotten.
RMC, la question pour le patron.
Non, mais il est orienté ce quiz ou quoi?
Non, on débute juste tranquille, on a dit Rotten Nico. Hein,
juste 3-0.
Jérôme.
2.
Jérôme, tout le monde répond.
Oui,
Jérôme. Mais... Oui. Non, mais c'est sur toi, c'est sur ta carrière. Ah, tu te souviens du passé de la question. Jérôme, tu as remporté la Coupe de la Ligue avec Monaco et avec le PSG. Ah. Vous êtes deux sur Terre à avoir réalisé cet exploit.
Oh.
Qui est l'autre?
Papé? Diallo? Gallardo?
Non.
Gallardo? Jean-Michel l'a ramené. Incroyable.
Il a gagné avec Paris aussi. Ouais, il a gagné en 2008.
Réduction de l'écart de 1. Pour Jérôme.
Allez, une petite question flash. On reste dans les joueurs qui ont porté les couleurs monégasques et parisiennes. C'est le cas de Leivin Kurzawa. Ah ouais. Dans quel pays évolue-t-il depuis fin janvier?
Ah, facile.
Au Portugal.
Non. L'Indonésie.
Oh, Jean-Pierre Papin, incroyable. De partout.
Vous croyez que je dormais ou quoi?
Oui.
Effectivement, Kurzawa est au Persib Bandung, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Question auditeur, au Persib Bandung, donc en Indonésie. Ouais. Voilà,
mais il n'est pas titulaire. Hein.
Ah, il vient d'arriver, Jérôme.
Oh,
allez, une petite question pour les auditeurs.
Il y a peut-être dans le groupe ce week-end, mais c'est pas sûr.
Elle est facile parce que si vous avez écouté l'antenne ces quelques dernières minutes, vous devriez le savoir. Parmi les effectifs actuels de Monaco et Paris, un seul joueur a joué pour les deux clubs. Lequel?
Ah, oh bah oui, c'est pas un cadeau. Hein.
Il est malade.
Ouais, Grégory et Damien. Dans les deux effectifs, il y en a un qui a joué dans les deux clubs.
Il devait jouer avec Monaco, mais il ne jouera pas, il est malade.
Il a souvent le brassard.
Il est germanique.
Il a souvent des palmes aux pieds.
Il a joué à Paris de 2018 à 2022, latéral droit.
Bah, ils l'ont pas.
Une fois.
Non, je l'ai pas.
Deux fois.
Thilo.
Trois fois.
Kerrer.
Thilo Kerrer. Voilà. Bah, on en reste à deux partout. Incroyable.
Ah déjà?
Aïe.
Benoît répond pour tout le monde, sauf pour Jérôme.
Ah bah oui, tu peux répondre, tu mènes 3-0. Vas-y, réponds, régale.
Non, il y a 2-2.
N'importe quoi.
Bah si, il y a 2-2. Bah oui.
Mais comment il y a 2-2?
Bah oui, il y a 2-2.
Regarde pas, c'est pas moi qui fais les scores, moi je pose des questions. Bah oui,
Jean-Pierre Papin est exceptionnel. Jean-Michel Larquet était exceptionnel.
Mais comment je peux avoir 2-2? J'ai donné 4 réponses.
Mais non. Attends, Jérôme, on verra ça après. On va d'abord sur une petite question Luis Enrique, ok?
Allez, question Luis Enrique.
Vous savez combien de points nous avons moins que l'année dernière? Erreur. Vous n'avez pas étudié,
La question Luis Enrique.
Alors on va voir si vous avez tous bien étudié, hein, puisque on va vous poser une question.
C'est moi qui réponds.
C'est toi, Benoît, exactement. Alors à l'été 2018, le transfert de Kylian Mbappé de Monaco à Paris a établi le montant record entre deux clubs du championnat de France. À combien s'élevait l'indemnité?
180 millions d'euros.
Parfait.
C'est bon.
Je sais juste que j'ai entendu un JPP qui disait aussi 180 millions d'euros.
180 millions d'euros.
Ben non.
Oui.
Et là, c'est donc la victoire du reste du monde. Parce qu'on a donné la victoire.
Ah, oh, j'adore.
À Jérôme, à Jean-Pierre.
Non, mais arrêtez.
Et à Jean-Michel Larquet. Et ben voilà. 3-2.
Comme d'habitude.
Mais j'ai donné 3
réponses. Comme d'habitude. Pas
mais non, la troisième, on ne l'a pas compté. C'était Jérôme Rotten, le meilleur consultant de l'histoire.
C'était le plaisanterie.
Il fallait le
donner. Mais non, on ne peut pas valider ça. C'est impossible.
Même Jean-Pierre était d'accord. Attends.
Et félicitations à Damien qui remporte ce magnifique cadeau. Bravo, Damien.
Jouer sur RMC avec Muse. Toute une collection d'enceintes portables, de radios, casques, platines vinyles et plus encore.
À découvrir sur muse-europe.com.
Un grand merci à Loïc Moreau
avec
pour ce
plaisir.
Quiz. Merci également Loïc. À Jean-Michel Larquet, merci à Jean-Pierre Papin. Et Jérôme, avant de passer la main à l'After Live, un petit détour par les Jeux Olympiques d'hiver à Milan Cortina avec le Big Air Homme qui est en cours et un Français qui va s'élancer, Morgan Maury. C'est Mathias Roche, je crois, qui va être sur le halfpipe. Hein.
Oui, malheureusement, il vient de tomber, Benoît. Les deux Français qui ont réalisé leur premier essai, Timothée Sivignon et Mathias Roche. Timothée Sivignon a mal attrapé son ski. Mathias Roche a chuté, mais il reste deux essais. Lucille, on prend les deux meilleurs essais dans cette finale du Big Air en ski.
Et maintenant, il faudra être impérial. On n'a plus le droit à l'erreur pour qu'ils aillent chercher la médaille. Ils sont obligés de replaquer deux sauts vraiment super sur les prochains passages.
Dans 20 minutes, deuxième saut pour Timothée Sivignon et Mathias Roche.
Merci Morgan. Et on vous retrouve tous les deux dans l'After Live avec Jean-Louis Tour à partir de 20h, Jérôme.
Et demain, on se retrouve dans Rotten sans flamme pour débriefer ce match-là. Restez bien à l'écoute d'RMC. Vous allez vous régaler. C'est la Ligue des Champions. C'est le 16e de finale. Allez au stade Louis II entre Monaco et le Paris Saint-Germain. Et il y a plein d'autres matchs aussi. Et bah demain, dans Rotten sans flamme, on parlera de tout ça à partir de 18h avec une belle surprise. Donc soyez à l'heure demain à 18h. Bisous, bonne soirée.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.